Ouvrons la parole de Dieu dans le prophète Zacharie, s'il vous plaît, au chapitre 4. Prophète Zacharie, chapitre 4, s'il vous plaît. Voilà, nous prendrons la Sainte Cène juste après la prédication, que cela soit l'occasion pour plusieurs eh bien, de prendre la Sainte Cène avec encore plus de recueillement, de prise de conscience de ce qu'elle représente vraiment. Zacharie, chapitre 4, verset 1er. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne ?» Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Notre Dieu est le Seigneur de toute la terre. Et il veut parler à son peuple. Il veut parler. Je ne sais pas si nous entendons avec nos oreilles physiques, qu'avec nos oreilles physiques, ou si nous entendons avec les oreilles de notre cœur, car nous avons un esprit. Vous le savez que l'homme est composé d'une trinité, comme on appelle le corps, l'âme et l'esprit. Et Dieu veut parler à notre esprit. Lorsque l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché. Leur esprit a été saisi. Il s'est passé quelque chose au point que 3000 âmes ont donné leur cœur au Seigneur. Dans ces 3000 âmes, il y avait peut-être la moitié, j'en sais rien, un certain nombre qui, quelques jours avant, criait, crucifie-le, crucifie-le. C'est fort possible que parmi ces milliers d'hommes et de femmes, il y en ait qui étaient au procès de Jésus et qui vociféraient, crucifie-le, crucifie-le, influencés par les pharisiens et les chefs religieux. Le Seigneur a commencé une œuvre. Dans ce texte, bon, Zorobabel, vous savez, nous pouvons c'est une image, nous pouvons pour nous savoir que le grand Zorobabel, c'est Jésus. Il a commencé son œuvre. Jésus a commencé son œuvre à Calvaire. Il a donné la responsabilité à l'Église, et si nous pouvons voir l'œuvre de Dieu se faire par les évangiles, par Jésus-Christ, dans les évangiles, par Jésus-Christ, à partir du livre des Actes, l'œuvre de Dieu se fait par une Église, par l'Église. Et si nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur, si nous avons véritablement accepté Jésus comme Seigneur, si nous sommes nés de nouveau, car là c'est un problème terrible dans l'œuvre de Dieu, à cause de l'indifférence, à cause de l'apostasie, à cause de tout un tas de choses et du péché bien entendu, que beaucoup de frères et de sœurs ne sont pas en vérité membres de l'Église parce qu'ils ont abandonné le Seigneur, malgré le fait qu'ils soient présents dans nos lieux de culte. Il est sûr d'une chose, Dieu poursuivra son œuvre, il achèvera son œuvre, et il l'achèvera avec des hommes et des femmes qui sont réveillés. Car vous avez vu, dans ce chapitre, il se passe quelque chose, on voit Dieu qui parle. Dieu parle, il a toujours quelque chose à nous dire. Des fois, il faut faire un silence avant que Dieu nous parle. Mais une chose est sûre, Dieu
parle. Quand vous regardez l'Apocalypse, même dans une église qui est tiède, qui est à deux doigts d'être vomie du Seigneur Jésus, dans une église qui a mis Jésus à la porte, à une église qui va très mal à cause de cette tiédeur, Dieu parle. Dieu a des choses à dire. Mes frères et sœurs, nous ne nous rendons pas compte à quel point c'est quelque chose de vital et quelque chose de sérieux. Dieu a quelque chose à vous dire. Bien sûr, si vous êtes avancé dans les choses spirituelles, Dieu a des choses que vous allez peut-être être, qui vont vous amener en profondeur. Si vous êtes au niveau, au début de votre vie spirituelle, ça va être peut-être le tabac. Une jeune fille me disait l'autre jour, mais une jeune fille qui est convertie depuis peu, et c'était normal, me disait, Monsieur Gou, est-ce qu'on peut regarder des films sur les vampires? Parce qu'il paraît qu'à la télé, il y a des séries où il y a des vampires. Et j'ai dit à cette fille, mais est-ce que vous vous rendez compte que ces choses-là sont des choses de ténèbres et que la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui se livre à ces choses? Bon, mais c'est normal, cette jeune fille vient de se convertir, elle a besoin de savoir. Si vous êtes converti depuis 7 ou 8 ans et que vous regardiez ces séries où il y a des vampires, il est certain que ça ne va pas spirituellement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut regarder qui sont saines, mais ces choses-là sont des choses qui sont liées à la puissance des ténèbres et qui sont une abomination devant Dieu. Donc, Dieu a parlé à cette jeune fille. Dieu, si vous êtes converti depuis 30 ans, Dieu a des choses, ces choses-là sont réglées. Je pense qu'elles sont réglées depuis longtemps. Et que c'est, après ça va être la jalousie. Après je parlais du tabac, la jalousie, vous voyez toutes ces choses. Et un crescendo jusqu'à des choses beaucoup plus profondes. Une chose est certaine, Dieu veut vous parler. Reste à savoir si les oreilles de notre cœur sont ouvertes. Reste à savoir. Et Dieu va tout faire pour vous aider, pour nous aider, car Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Il va nous aider. Il voulait parler à Zacharie, mais pour cela, il y avait la nécessité d'être vraiment réveillé. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla. Alors on pourrait parler de chaque verset, peut-être transformé en une prédication profonde, pour que nous comprenions que Dieu, quand c'est lui qui règne dans une église, eh bien il dit même, vous voyez, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. » Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, ça. Moi, oui. Dieu est en train de dire à Zorobabel, à Zacharie, à Zorobabel, « Écoutez les problèmes. » Parce que les grandes montagnes, ça représente les grands problèmes. Et écoute, si moi je suis là, les grands problèmes, ils seront aplanis. Est-ce que vous le croyez, cela? C'est ce que Dieu dit. « Qui es-tu, grande montagne ?» Mais quel est l'homme qui va s'inquiéter si Dieu lui parle? Vous savez, cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi à un sujet qui me concerne. Et je vous en parle. J'ai hésité avant de vous en parler. J'en ai parlé un petit peu mardi, mais je sais que je dois vous en parler. Je suis votre pasteur. Vous vous souvenez quand l'apôtre Paul est emprisonné à Éphèse, qu'il écrit à Éphèse, il parle de la guerre spirituelle, qu'il y a dans les cieux. Il explique tout un tas de choses, la vie sociale, la vie familiale, la vie de l'Église, mais il termine avec cette dimension de la guerre spirituelle. Alors c'est sûr que beaucoup de chrétiens n'ont rien compris à la guerre spirituelle, certainement parce que nous ne l'avons pas assez expliqué, mais une chose est certaine, comme les choses vont de grâce en grâce, si quelqu'un n'est pas rentré dans le service, il est clair qu'il ne va rien comprendre à la guerre spirituelle, parce qu'il y a une progression dans la vie spirituelle. Et je m'adresse déjà à ceux qui n'ont peut-être pas encore trouvé leur place, entrez dans le service afin que vous compreniez qu'il y a vraiment une guerre spirituelle. Lorsque l'apôtre Paul est en prison, il est attaché, il écrit « Priez pour moi ». Vous connaissez ce texte, vous savez que c'est vrai. « Priez pour moi ». J'imagine les chrétiens superficiels, les chrétiens qui ne vont pas bien et qui ont appris que l'apôtre Paul était en prison. Certains ont dû dire, eh ben, le pauvre, quoique, et les chrétiens qui sont très 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 spirituels ont dû dire, ah mais tu te souviens, tu te souviens pas de ce qu'il faisait avant de se convertir? Il faisait mettre les chrétiens en prison, peut-être que Dieu lui rend la monnaie de la pièce, je suis sûr qu'il y en a qui ont dû le penser, ceux qui sont très spirituels. Très spirituel. Mais moi, je peux vous dire que Paul n'était pas assis dans une prison. Paul, il était assis dans les lieux célestes. Si vous lisez toute l'épître, vous verrez. Et Paul est rempli du Saint-Esprit. La preuve, c'est que je suis en train de prendre un texte qui a été écrit il y a 2000 ans et qui nous sert à comprendre encore aujourd'hui ce qu'est la guerre spirituelle. Donc laissez-moi vous dire que ce que Paul enseignait était vraiment inspiré. La preuve, d'ailleurs, c'est dans les Saintes Écritures. Et Paul ne demande pas de sortir de prison parce que c'est le cursus dans lequel Dieu l'a placé, s'il est dans la volonté du Seigneur. Il demande « Priez pour moi ». Et cette semaine, j'ai prié, bien sûr, dans ce sens, où si je devais vous dire des choses, car il y a des choses qui me concernent à moi seul, et il y a des choses qui concernent l'Église. Mais je peux vous dire que Dieu m'a confirmé que je devais vous en parler. Parce que cet homme, assis dans les lieux célestes, rempli du Saint-Esprit, enseignant ce qu'est la guerre spirituelle, et je pense que les quatre mardis qui vont suivre, je l'ai eu à cœur ce matin quand je priais, les quatre mardis qui vont suivre, je vais enseigner l'aperçu de la guerre spirituelle. Parce que je suis persuadé que si l'Église n'avance pas comme elle le devrait, c'est qu'elle n'a pas compris ce qu'est cette guerre spirituelle. Et je pense, je le dis sincèrement, que ça vient en partie de nous, les pasteurs, qui n'avions pas été assez spirituels et qui ne sont pas capables d'enseigner ces choses. Mais je voudrais vous les enseigner. Et je vous donne rendez-vous à ceux qui veulent voir l'œuvre de Dieu s'achever. Vous voulez voir l'œuvre de Dieu s'achever? Des fois on dit « Seigneur, reviens nous chercher, il y en a marre ». Mais c'est sûr qu'on serait mieux dans les aux noces de l'agneau. Moi je vous avoue que je préférerais être en ce moment aux noces de l'agneau. Moi ça me conviendrait d'y être. Ça vous conviendrait d'être aux noces de l'agneau? Moi ça m'irait très bien, revêtu de vêtements de fin lin, tout ça m'irait bien. Avec Jésus-Christ, en train de manger des mets succulents et gras, du vin fin. Moi tout ça m'irait bien. Mais mes frères et sœurs, avant que ces choses n'arrivent, Dieu va achever son œuvre. Et pour achever son œuvre, il faut qu'il trouve des hommes et des femmes réveillés, qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, qui ont de la joie à se tenir devant le Seigneur de toute la terre, qui sont convaincus que les grandes montagnes, lorsque les hommes et les femmes sont remplis du Saint-Esprit, eh bien, ils n'en ont rien à faire des grandes montagnes. L'apôtre Paul, il n'était pas dans la défaite, il était dans la victoire. Vous croyez que l'apôtre Paul était dans la défaite ? Quand il a écrit l'Épître aux Éphésiens, où vous croyez qu'il était dans la victoire? Car je crois que quand on est assis dans les lieux célestes, il n'y a pas de défaite. En tous les cas, j'ai du mal à croire que quelqu'un qui est assis avec Jésus dans les lieux célestes puisse vivre dans la défaite. Et l'ennemi, avec toutes ses ruses et ses stratagèmes et ses méthodes, fera tout pour nous endormir. Tout. Il fera tout. Il fera tout pour nous faire croire que ça va, que notre vie spirituelle va bien, que si demain je devais mourir, eh bien c'est excellent. Ma vie était entièrement à Dieu. Vous savez, ce matin, je chantais, parce que je rechantais des cantiques que nous avait chanté Jérémy mardi. Quand on chante, vous savez, ce cantique, celui-là c'est Philippe qui nous l'a fait chanter il y a quelque temps. Je choisis d'être saint. Vous connaissez ce vieux cantique qui est tiré de l'Ancien Testament? Je choisis d'être saint. Nous chantons ces choses ici, dans cette assemblée. Nous chantons des paroles d'une profondeur. On y tient en plus à avoir des cantiques profonds, comme ceux que nous venons d'entendre, qui sont vraiment profonds. Vous êtes d'accord avec moi? Et on a besoin de cette profondeur. Mais vous rendez compte qu'on chante des cantiques. Je choisis d'être saint. Quand on a chanté mardi, je n'aurai pas d'autre Dieu. Et en chantant ce cantique ce matin, je pensais à Jésus quand il était tenté dans le désert. Quand le diable à plusieurs reprises a essayé de le faire échouer. La dernière tentation, Jésus lui a dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et le diable a été obligé de fuir. Jusqu'à une occasion favorable. Bon, l'occasion favorable, c'est quand, je pense, le Père l'a abandonné sur la croix parce que Jésus était en train de porter notre péché, qu'avec moquerie, il a essayé de le déstabiliser. Il ne pouvait pas accéder à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ vivait dans la pureté, dans la sainteté et dans l'obéissance. Et si tant de fois nous avons donné accès au diable, il faut qu'on soit honnête, c'est qu'on n'a pas obéi au Seigneur. Vous le savez, rien que la colère. Rien que la colère, si elle n'est pas gérée, c'est écrit ou c'est pas écrit? Est-ce que c'est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça peut arriver, ça peut arriver d'avoir un moment où on a une parole un petit peu trop excessive, etc. Ça peut arriver. Mais il dit ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et nous ne nous rendons pas compte la quantité de situations qui peuvent donner accès au diable. Lorsque quelqu'un, franchement j'espère qu'il n'y en a pas dans l'Assemblée, peut-être, mais je le dis humblement et je le pense sincèrement. Je n'utiliserai jamais la chair pour dire un truc que j'ai à dire. Mais je pense quand même que si des choses n'ont pas été, c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment l'onction sur la chair Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment l'onction sur les pasteurs, moi le premier. Et je suis persuadé que si nous avions enseigné certaines choses, des chrétiens de 10 ans de conversion ne s'autoriseraient pas à regarder des films où il y a des vampires. Parce que là, c'est quand même révélateur, vraiment du péché qui est dans le cœur. Et pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire, pour que les choses puissent avancer, ce chapitre est très très clair. Ce chapitre est d'une profondeur incroyable. Nous comprenons de toute façon que ce n'est que par le Saint-Esprit. Mais vous savez, j'écoutais cette semaine une cassette de M. Menpio qui disait justement que c'était une abomination de demander le Saint-Esprit si on n'était pas passé par la repentance. Que c'était une abomination de demander le Saint-Esprit si on vivait dans le péché. Que c'était une abomination de demander le baptême du Saint-Esprit si on ne voulait pas faire la volonté du Seigneur. Enfin, je peux vous passer la cassette, vous doutez bien que je ne suis pas en train de mentir et d'exagérer. Parce que le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Et là, nous voyons un homme, Zacharie, cet homme de Dieu, c'est quelqu'un, il a besoin d'être réveillé. Il a d'abord besoin d'être réveillé, car pour entendre la voix de Dieu, il faut être réveillé. Et je ne parle pas réveillé physiquement, je parle d'un réveil spirituel. Imaginez quelqu'un qui a le cancer, qui dort, quelqu'un qui est endormi profondément, et le docteur arrive et lui dit, voilà, tu as le cancer. Et le gars, il dort. Vous savez, qu'est-ce que ça y fait au gars? Il ne sait pas. Le chirurgien, il s'en va, et le gars, il ne sait pas qu'il a le cancer. Pourquoi? Parce qu'il dort. Et mes frères et sœurs, bien sûr que vous entendez avec vos oreilles physiques, mais je pose la question, est-ce que vous entendez avec vos oreilles spirituelles que la nécessité pour faire l'œuvre de Dieu, c'est de commencer à être réveillé. Seigneur, je veux être réveillé. Quand vous lisez le livre des Juges et que vous lisez l'histoire de Déborah, je ne sais pas si vous avez lu le livre des Juges et l'histoire de Déborah, c'est dans Juges au chapitre 5. On peut y aller d'ailleurs, tiens, allons-y. Et regardons cette femme. Cette femme, elle est malheureuse. Elle est malheureuse pour la simple unique raison que le peuple, eh bien, s'est détourné. Il n'y a plus personne. Même les chefs. Parmi les chefs d'Israël, il n'y en a pas un capable de faire l'œuvre de Dieu. Et cette femme, elle est dans une détresse totale. Et voilà qu'elle va se mettre à composer un cantique inspiré. Parce que je crois que dans la communion avec Dieu, Dieu peut nous donner certaines choses extraordinaires. Et cette femme, elle est là. Elle veut voir la gloire de Dieu. Et je crois que lorsque l'on veut vraiment voir la gloire de Dieu, je parle vraiment de la voir, pas de la prêcher, pas de la chanter, pas de dire Alléluia, de vraiment voir la gloire de Dieu, il se passe quelque chose au niveau du sommeil spirituel, ou au niveau du réveil, comme vous voudrez. Dans Juges chapitre 5, au verset 6, elle parle du temps des chefs, au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors, la guerre était aux portes. Regardez la suite, ça fait peine. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers. En Israël, personne n'était armé. Personne. Ça représente les armes spirituelles, les armes nécessaires pour la guerre spirituelle. Vous le savez, quand Paul parle de la guerre spirituelle, il demande aux chrétiens de se revêtir de toutes les armes. Mais à quoi ça sert d'être revêtu de toutes les armes si on n'obéit pas au Seigneur? Ça sert strictement à rien. C'est de la religiosité, c'est du bruit qui sert strictement à rien. Et regardez au verset 12. Cette femme, elle, c'est un cantique qui vaut la peine d'être médité. Cette femme, elle a choisi de se lever. Elle veut que Dieu agisse. Et regardez ce qu'elle dit au verset 12. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Déborah, ça veut dire l'abeille. Réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Cette femme, elle ne supporte pas le sommeil spirituel du peuple de Dieu. Elle ne supporte pas que tout le monde soit endormi. Alors je profite pour redire ce que j'ai déjà dit. Il n'avait pas abandonné le culte, il n'avait pas abandonné l'adoration. Vous savez, hier soir, je lisais dans les Rois, je lisais ce verset parce que j'étais poussé à le lire, je ne pensais pas vous en parler. Quand il est dit, il craignait l'Éternel, c'est un verset moi qui m'a toujours heurté. Il craignait l'Éternel et en même temps, il servait les Baals. Et les Astartés. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Il craignait l'Éternel et en même temps, il servait les Baals et les Astartés. Ils aimaient Dieu et en même temps, ils aimaient le monde. Mais le résultat, c'est qu'ils aimaient plus le monde que Dieu. Il y avait une certaine crainte, ça c'est clair, ils pouvaient dire oui, j'ai la crainte de Dieu. Mais en vérité, leur fruit, c'était qu'ils aimaient plus le monde, ils aimaient plus les choses de la terre, ils aimaient plus le sport que la prière. Et vous voyez, je pourrais continuer ce que j'ai souvent expliqué. Mais c'est une question qu'on peut se poser, parce que je peux vous poser la question, nous poser la question. Est-ce que nous aimons Dieu? Vous allez me dire, mais monsieur Gauss, si on est ici dans l'église, oui, d'accord. Mais est-ce que nous aimons pas plus le monde? Est-ce que nous aimons pas plus les choses de la terre? C'est une question à laquelle il faut répondre. Parce que si ce n'est pas moi qui vous la pose, c'est le Seigneur qui vous la pose. Vous aimez le Seigneur? Vous aimez les choses de la terre? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Vous devez répondre. Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Moi, j'ai répondu. Je pense qu'il faut répondre. Mais l'œuvre de Dieu a commencé, elle a commencé, vous le savez, lorsque Jésus a donné sa vie au calvaire. Elle s'achèvera, en partie, lorsque Jésus va revenir prendre les siens. Ses mains l'achèveront. C'est les mains du Seigneur qui achèveront l'œuvre de Dieu. Mais pour cela, il faut que son œuvre soit entre ses mains. Il faut que nous, les chrétiens, nous soyons véritablement sérieux avec cette affaire. Déborah a été sérieuse. Elle a compris, elle aussi, le combat spirituel. Regardez avec moi au verset 20. Au verset 20, elle sait, il y a plein de petits jalons dans la Bible qui nous montrent que le problème de l'Église, ce n'est pas un travail social, un travail humain, c'est un travail spirituel. Et regardez au verset 20, elle l'a vu dans l'esprit. Des cieux ont combattu. Est-ce que vous croyez que lorsqu'un homme cherche Dieu, je ne cherche pas la bénédiction, je parle de chercher la présence de Dieu. Parce que si je fais mon culte le matin, 5 minutes, pour dire « Seigneur, bénis-moi, protège-moi », ce n'est pas ça chercher Dieu. Ça, c'est demander à Dieu qui vous protège. C'est bien de le faire. Mais j'espère que nous tous qui sommes ici, depuis le temps où nous sommes enseignés sur ce sujet, nous faisons bien la différence entre demander une bénédiction, la protection du Seigneur, qui doit être faite, et de notre côté, chercher la présence de Dieu pour que Dieu puisse vraiment me réveiller et que je peux dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que je dois faire? Est-ce que nous voulons que des cieux, Dieu, combatte pour nous? Est-ce que vous voulez que Dieu combatte des cieux pour vous? Mais Dieu ne combattra pas si nous sommes assis dans les ténèbres. Dieu ne combattra pas si nous sommes assis dans le péché. Et c'est vrai que l'ennemi a su utiliser certains versets, il sait le faire. Dans la tentation au désert avec Jésus, croyez-moi qu'il savait le faire. Avec Jésus, c'est sûr que ça ne risquait pas de prendre. Mais avec les chrétiens d'aujourd'hui, croyez-moi que ça prend. Quand la Bible dit par exemple que le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Il y a des gens qui se gargarisent de ce verset et c'est youpi et c'est merveilleux. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Oui, oui. Mais vous lirez ce qui précède. C'est quand je marche dans la communion avec le Seigneur. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Sinon, ça devient extrêmement inquiétant si je vis dans le péché et que je dise le sang de Jésus me purifie de tout péché. Laissez-moi vous dire que ça ne se passera pas bien. Ça, c'est prendre un verset n'importe comment et l'utiliser à sa guise pour justifier que Dieu passe sur tout, que Dieu est bon. Et c'est vrai que Dieu est bon. Mais je crois que lorsque l'on a péché, il faut passer par une profonde repentance. Et quand on se repent vraiment, on arrête le péché. Et si vous n'arrivez pas à prendre la victoire sur un péché, ne vous inquiétez pas. Enfin, vous pouvez vous inquiéter, c'est une façon de parler. C'est que vous n'avez pas cherché la face de Dieu. Parce que je crois que Dieu est un Dieu de délivrance. Est-ce que vous croyez tous que Dieu est un Dieu de délivrance? Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime pour vous amener à cette victoire? Oui, l'ange me réveilla comme réveille un homme de son sommeil. Il n'est pas possible que l'œuvre de Dieu avance, que des gens se tiennent devant Dieu. Il n'est pas possible que ces choses-là se mettent en place si d'abord nous ne sommes pas vraiment réveillés de notre sommeil spirituel. Et croyez-moi, il faut se réveiller. Paul dit aux Éphésiens, avant d'enseigner la guerre spirituelle, il dit « Mais réveille-toi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Quelqu'un qui est dans les ténèbres, quelqu'un qui dort, il va pas être conscient. Il y a des chrétiens qui sont pas conscients. Et quand je vous disais que Paul a dit prier pour moi, mais moi je vous le demande. C'est pas parce que je veux que vous soyez gentil ou parce que c'est pas de l'affection. C'est pas une question d'affection. C'est une question spirituelle. L'affection, elle doit exister entre nous, c'est évident. Mais c'est une question de combat spirituel. Si je vous dis « priez pour moi », si Paul l'a demandé, je ne vois pas quel est le pasteur qui pourrait s'autoriser à ne pas le demander. Et est-ce que vous l'avez fait ce matin? Répondez-vous à vous-même. Est-ce que c'est le devoir des chrétiens de prier pour le pasteur qui doit parler au nom de Dieu? Est-ce que c'est le devoir de chaque chrétien? Est-ce que vous dites, ah ben moi j'ai pas le temps, moi je suis crevé, je dors. Mais oui, mais juste ça, vous dormez. Est-ce que franchement, un réveil peut commencer dans une église si les chrétiens ne prient pas pour leur pasteur? Vous allez me dire, mais monsieur Gou, il va bien. Oui, ça va. Mais je pense que même si ça va bien, l'œuvre de Dieu, elle se fait pas avec des gens qui vont bien. L'œuvre de Dieu, elle se fait avec des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, qui comprennent ce qu'est la guerre spirituelle. Je voulais en parler ce matin, mais je me suis dit, je préfère en parler le mardi à ceux qui ont vraiment soif de cette affaire. Parce que c'est quand même une affaire qui est déterminée par la soif. C'est une affaire qui nécessite véritablement une prise de position. On ne combat pas spirituellement comme ça si on n'a pas envie d'obéir. Je vous le dis, mes frères et sœurs, priez pour moi. Parce qu'il faut enseigner ce qu'est la guerre spirituelle. Moi, je crois que la vie avec Dieu est une vie de repos. Je crois que Paul était dans le repos. Je crois que Paul était dans la victoire lorsqu'il était en prison. Mais laissez-moi vous dire que si nous voulons que Dieu achève son œuvre, si nous ne voulons pas perdre de temps, parce que vous savez qu'on peut hâter ces choses. Est-ce que c'est écrit qu'on peut hâter ces choses? Oui. Mais on ne va pas hâter ces choses en disant « Seigneur, reviens, Seigneur, reviens ». Ce n'est pas ça qui va hâter le retour de Jésus-Christ. Ce qui va hâter le retour de Jésus-Christ, c'est que Dieu va trouver un homme, comme la prophétie le disait dimanche dernier, une femme. Vous voyez, là, il a trouvé Déborah. Pourtant, ce n'était pas, je vous assure, la mode à l'époque que Dieu utilise une femme. Mais quand Dieu trouve quelqu'un, il l'utilise. Ne vous inquiétez pas, croyez-moi. Si Dieu ne nous a pas utilisés, c'est qu'on ne faisait pas l'affaire. Et qu'il faut qu'on recherche sa sainteté. Est-ce que c'est un ordre? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oh, monsieur Gaulle, les ordres, ça suffit au boulot. Hein? Mais j'espère que vous acceptez les ordres de Dieu comme étant une véritable bénédiction. Peut-être que l'ordre du patron, et quoi que si c'est un patron, eh bien, vous devez l'accepter. Et j'espère que vous ne tombez pas dans la mentalité du monde, où on est tout le temps en train de se rechigner. Voilà, si vous avez un patron, soumettez-vous à lui. Soumettez-vous à votre patron. Il n'est pas facile, eh bien, tant pis. Qui sait si Dieu n'est pas en train de vous former pour certaines choses? Vous croyez que Dieu ne peut pas incliner le cœur de votre patron? Vous croyez que Dieu n'a pas autorité sur tout dans les cieux et sur la terre? Alors mes frères et sœurs, écoutez l'appel de Dieu. Dieu a réveillé Zacharie. Dieu veut nous réveiller, Église de Sainte-Agne. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous considérez ça comme un fardeau? Est-ce que vous considérez ça comme une grâce? Est-ce que vous considérez ça comme un ordre béni? Le Seigneur veut me réveiller. Il veut faire quelque chose avec moi. Le Seigneur, il veut faire quelque chose avec nous tous. Il veut me réveiller. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez converti depuis 3 mois ou depuis tant d'années. Mes frères et sœurs, est-ce que vous considérez l'appel de Dieu à vous réveiller comme une contrainte? Ah, qu'est-ce que Dieu va faire? Ah, mais c'est sûr, si vous, c'est le Dieu le dimanche matin, et juste le dimanche matin, on a 2 heures ensemble, là, on est d'accord tous les deux, Seigneur, après, pop, pop, chacun de son côté. C'est sûr que ça va vous contrarier. Mais même si vous en étiez là, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bénédiction que Dieu nous dise, réveille-toi? Comment vous l'interprétez? Comment vous l'interprétez? Réveille-toi, toi qui dors, et Christ éclairera. Relève-toi d'entre les morts. Laissez-moi vous dire qu'il y a une grande bénédiction derrière. Il y a l'entrée dans une autre dimension de bénédiction et de grâce. Il ne faut pas se laisser endormir. C'est vrai que le combat nous endort. Je lisais ce matin quand Jésus, dans le jardin de Gethsémané, justement, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Voilà, la suite, ça me fait pitié. Endormis de tristesse. Ils sont tristes. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que certains pensaient, Judas le premier sûrement, que Jésus allait être le roi de Jérusalem. Si vous connaissez bien, c'est clair. Tout le monde pensait, parce que vous savez quand ils l'ont acclamé Hosanna, Hosanna, tout le monde pensait, d'ailleurs ils ont été le chercher pour faire de lui le roi. C'était vraiment de la politique. Là on n'était pas dans les législatives, là on était dans les municipales, dans les nationales. Mais c'est vrai, ça vous fait rire, mais vous comprenez? Et comme, et là, ils ne comprenaient pas, ils étaient dans une tristesse totale, tout tombait par terre. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait que Jésus meure. Et ils se sont endormis de tristesse. Pourtant, laissez-moi vous dire que quand vous lisez ailleurs, juste avant, il est dit que Jésus aussi était triste. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, voyez, Jésus est triste. Les apôtres sont tristes. Mais il y a une tristesse qui les a endormis parce qu'ils n'ont pas compris. Et Jésus, malgré sa tristesse et sa souffrance de surcroît, n'a pas été empêché de faire l'œuvre de Dieu. Ce qui vous prouve qu'il peut y avoir une certaine tristesse parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, mais Seigneur, pourquoi? Alors aujourd'hui, on est dans un méli-mélo pas possible. Hein, si Dieu fait des miracles, confirme ta parole, et fait ceci, et fait cela. Vous ne croyez pas que le Seigneur, il a temps de trouver une église pour faire ces choses? Franchement, dites-moi, s'il y a quelqu'un qui doute un instant que Dieu n'est pas plus intéressé que nous à manifester sa gloire, à guérir des malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, un instant, douterait que Dieu soit en train de changer d'avis? Dieu veut manifester sa puissance. Pour qu'il manifeste sa puissance, il faut travailler avec lui. Les apôtres, il nous a dit que Dieu confirmait sa parole parce que Jésus travaillait avec eux et eux travaillaient avec lui. Alors la seule alternative, c'est de dire, Seigneur, eh bien, moi, j'accepte d'être réveillé. Oui, je suis endormi. Regardez, en plus, il y a des prophéties terribles dans le Nouveau Testament. Quand Jésus parle des vierges folles et même les vierges sages, elles sont toutes assoupies. Ça fait frémir quand même. Toutes. Il n'y a pas que les folles. Même les sages, celles qui ont le souci d'entretenir une communion avec Dieu, sont endormies. Et je crois qu'il faut que nous nous réveillions et que nous acceptions le fait que si Jésus a dit par l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, il est temps de vous réveiller parce que les ténèbres approchent, le jour du Seigneur est déjà là, si ça a été écrit il y a 2000 ans, à combien plus forte raison, nous les chrétiens du 21e siècle, nous sommes concernés par cette affaire et de dire oui. Et je pourrais dire beaucoup de choses ce matin, mais peut-être juste une remarque. Je remarque que je peux faire parce que Jésus l'a faite. Lorsqu'il trouve ses disciples endormis, il leur fait une remarque. Il leur dit juste, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Jésus a passé la nuit dans la souffrance et pourtant il soupirait être aidé au moins une heure avec lui. Et voyez, parce que je ne veux pas utiliser cette sévérité pour culpabiliser bêtement. Ça ne tient pas debout, ça ne sert à rien. Parce que même si on cherchait à se sanctifier et à faire les choses à contre-cœur, ça ne servirait à rien, je crois que ce serait pire. Vous voyez, de faire des choses, bon, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, mais si on les fait, il faut les faire avec joie. Vous ne croyez pas qu'il faut que ce soit une joie? Mais cette parole que Jésus a adressée, est-ce que vous croyez que si c'était lui qui était là au milieu de nous et qui prêche lui-même, est-ce que vous croyez qu'il pourrait nous faire ce reproche avec amour, avec sévérité? Qu'importe. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Est-ce que vous croyez que Jésus pourrait nous faire ce reproche? Oui, il pourrait le faire, et on l'accepterait venant de lui. Mais est-ce que vous acceptez cette parole que je vous adresse comme venant de lui? Est-ce que vous dites, mais c'est vrai, c'est pas Monsieur Gau, c'est vraiment Dieu, c'est toi, Seigneur, qui est en train de me parler. J'entendais avec mes oreilles physiques, mais là, je suis en train de réaliser que dans mon cœur, j'ai pas été capable de te donner une heure. Un jeune me disait la dernière fois, on est capable de rester jusqu'à 2h, 3h du matin. Un jeune, pas de 14 ans, de 30 ans, me dit à peu près. Il me disait, on est capable de rester sur la PlayStation jusqu'à 2h, 3h du matin. On n'est pas capable de se retrouver avec son conjoint pour prier 5 minutes. Voilà ce qui se passe ici, dans l'église de Sainte-Agne. Alors moi, je ne veux pas juger, parce que je ne suis pas meilleur qu'eux, certainement pas. Mais je crois, mes frères et sœurs, que nous avons un Dieu qui veut achever son œuvre. Il veut l'achever. Relisez, méditez ce chapitre, et vous allez voir la bénédiction qui repose sur ce chapitre. Quand on voit que nous avons un Dieu qui est capable de nous réveiller, et c'est vrai que j'avais pris plein de textes sur le réveil. Mais, mes frères et sœurs, je vais arrêter là. Et je vais nous demander, est-ce que nous voulons que Jésus nous réveille? Il y a des gens oints. Les gens oints, ce sont ceux qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. L'apôtre Paul, il était enfermé dans une cellule. Ce que les gens pensaient, c'est pas important. Mais il était en train d'enseigner des vérités qui ont parcouru les siècles pour aider l'Église à comprendre ce qu'était la guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre contre la chair et le sang. Ne luttez pas contre la chair et le sang. Soyez en bénédiction dans vos familles. Même si quelqu'un de votre famille est inconverti, dans votre couple, ne le maudissez pas. Bénissez-le. C'est un combat spirituel. Et je suis persuadé que lorsqu'on est assis dans les lieux célestes, on ne fait pas du mal à sa femme, à ses enfants, etc. On est en bénédiction aux autres. L'ange me réveilla. Est-ce que vous acceptez que le grand Seigneur du ciel et de la terre vous réveille, me réveille? Est-ce que vous voulez que Dieu me réveille? Est-ce que vous voulez avoir un pasteur endormi? Ou est-ce que vous voulez avoir un pasteur vraiment réveillé? qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit vraiment l'enseignement, la parole dont on a besoin, que nous entendions dans les églises, ainsi parle l'Éternel, que ce soit vraiment la parole du Seigneur qui nous soit donnée, que nous puissions vraiment voir sa gloire se manifester. Vous n'avez pas envie de voir un paralytique être guéri? Natacha qui est là, elle a chanté à la chorale, oui, Natacha. Où êtes-vous, Natacha? Ah, devant. C'est moi qui ne vous vois pas. Natacha, vous croyez que Dieu peut vous ouvrir les yeux? Moi, je le crois vraiment. Je le crois vraiment. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Et comme un jour, ses disciples qui passaient devant l'aveugle de Jérusalem, là, vous savez, et qu'ils étaient, vous savez, quand la religion ne nous aide pas, hein, qui c'est qui a péché? Lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez comme quoi la religion, ça fait des dégâts dans le cerveau. Et Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Moi, je crois que la gloire de Dieu, elle peut se manifester. Avec des gens qui ressembleront à ce chandelier d'or. Alors, je ne vais pas entrer dans une deuxième prédication. Le chandelier nous parle du témoignage. Un chandelier d'or. Dans le lieu saint, il y avait un chandelier en or. Tout en or. Que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et je ne peux pas croire un instant que si on est vrai avec Dieu, chacun, quelles que soient nos années de conversion, je ne peux pas croire que le Saint-Esprit ne nous aidera pas. Car Dieu l'a dit, le Seigneur lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai ton aide. Il l'a dit, il ne l'a pas dit. Et Dieu va nous aider, mes frères et sœurs. Dieu va nous aider à comprendre ce qu'est la guerre spirituelle. Moi, j'ai prié pour ça. Vous savez, l'histoire de ce film que j'ai regardé, là, où il y avait des mots grossiers, je suis content maintenant de l'avoir regardé. Parce que je peux vous dire que Dieu m'a parlé. Vraiment, Dieu m'a parlé. Avec ce verset, la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. Et je me dis, les pauvres chrétiens de Saint-Agne, les pauvres chrétiens, ils ont un pasteur idolâtre. Ça vous fait rire peut-être, je ne sais pas, moi, ça me ferait pleurer plus. Et moi, je n'ai pas envie, au jour du jugement, que Dieu me reproche d'avoir été, excusez-moi l'expression, mais ça, vous allez comprendre, un guignol. Moi, je veux être un homme de Dieu, avec des hommes et des femmes de Dieu, dans l'Église. Alors, on va se recueillir quelques instants. Et on peut faire comme Déborah, on peut faire comme Zacharie, se laisser réveiller, ou choisir de se réveiller. Je crois que le Seigneur est capable de nous aider. Mes frères et sœurs, on va prendre le pain et le vin. Je vais demander à monsieur de Dieu, Norbert, de prendre des frères, s'il vous plaît. Faites-le discrètement. Mais venez, mes frères, à côté de moi, préparer la Sainte Cène. S'il vous plaît. Qui ce matin vous choisissez de se réveiller, choisissez d'être réveillé, et choisissez de dire, Seigneur, je ne veux pas que tu parles à mes oreilles physiques. Je veux que tu parles dans mon cœur. Je veux que tu me parles. J'en ai assez d'entendre ta parole et de ne faire aucun progrès. C'est parce que nous n'avons écouté qu'avec nos oreilles physiques. Mais ce matin, si Dieu a pu toucher un cœur, ce cœur-là fera des progrès. Ce cœur-là aura la joie, mais la joie indescriptible de se tenir devant le Seigneur de toute la terre. Que le Seigneur soit béni. Notre Père, tu avais une parole pour Zacharie. Dans son découragement, tu voulais lui dire que tu achèverais ton œuvre. Et nous le savons que tu achèveras ton œuvre. Que tu trouveras dans ton immense puissance, dans ta souveraineté, une église, un homme, une femme avec lesquelles tu pourras travailler. Seigneur Jésus, ce matin, oui, nous t'autorisons à nous réveiller. Oui, nous te demandons de nous toucher. Oui, nous te demandons de nous éclairer, de nous montrer, oui, que les grandes montagnes, si nous sommes avec toi, elles seront aplanies. Mon Dieu, merci. Merci de nous montrer que nous aussi, nous pouvons nous réjouir en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Nous le croyons que toi, notre Zorobabel, tu as ta parole pour qu'on construise avec droiture. Seigneur, que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Nous restons les yeux fermés. Je vais vous demander, à vous qui êtes baptisés par immersion, vous qui avez accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur, vous qui êtes sauvés par grâce, de vous lever à votre place. Faites-le avec cœur, faites-le avec bonheur.
N'oubliez pas que ce vin, ce pain, nous rappelle ce que nous avons entendu dans ce cantique de Gethsémané à Golgotha. Il a été brisé, crucifié. Son sang a coulé pour qu'un jour nous puissions nous présenter devant lui, pour qu'un jour nous puissions assister aux noces de l'agneau. Alors restez dans le recueillement, priez dans votre cœur, priez à haute voix courtement. Mes frères et sœurs, que tout se fasse avec sérieux, avec joie, avec piété, parce que ça s'appelait à Dieu. Que son nom soit béni.